Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité. 0826 300 300. Faut-il élargir la PMA à toutes les femmes? Ce matin, vous avez vu qu'il y avait eu un avis positif du Conseil national d'éthique, voilà. Et puis, on va parler de l'euthanasie également, puisque pour le coup, l'avis a été négatif. Et on parlera également de l'Aquarius. Doit-il accoster à Marseille? Et puis, vos coups de cœur et vos coups de gueule. Ce matin, pour débattre, Othmane Nasrou, bonjour, vous êtes président du groupe LR et indépendant au Conseil régional d'Île-de-France. Patrick Fluchiger, pardon, vous êtes journaliste, éditorialiste, vous étiez correspondant du groupe EBRA, c'était tout ce qui était les journaux de l'Est. Ce qui existe toujours. Matteo Ghisalberti, journaliste italo-français, rédacteur en chef de Putsch, le nouveau média franc-tireur. Voilà,
bonjour.
Je dis tout d'un seul coup. Et Patricia Balm, présidente fondatrice de PBcom International. Bonjour à vous. On va commencer avec vous, Patricia. Coup de cœur, coup de gueule?
Les deux à la fois.
Alors, fromage et dessert.
Un coup de cœur pour le magnifique titre de Libé aujourd'hui à propos de la candidature de Manuel Valls à Barcelone. Dis le titre, tapas ou ça casse. Donc j'ai trouvé formidable.
C'est assez, oui, Libé a le chic des titres, mais celui-là est particulièrement réussi.
Tapas ou ça casse.
Oui, c'est aujourd'hui que Manuel Valls doit annoncer sa candidature.
Ce soir à 19h.
Absolument.
Coup de gueule, parce que je trouve indécent que Manuel Valls soit encore à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il est payé par l'Assemblée nationale, en l'occurrence par nous, Français, et qu'il n'ait pas démissionné avant d'annoncer sa candidature. D'ailleurs, je crois qu'il a brillé par son absence depuis quelques mois à l'Assemblée.
Et à Évry, j'entendais des habitants d'Évry.
N'en parlons pas. Ouais. N'en parlons pas, donc je trouve ça scandaleux, donc c'est mon gros coup de gueule.
Vous avez une réaction les uns les autres, vous qui êtes élu?
Non mais s'il est candidat ce soir à Barcelone, il est évident qu'il doit démissionner immédiatement, cette situation n'a que trop duré, voilà. Pour le reste, c'est vrai que cette histoire est un petit peu surréaliste aussi, d'avoir un ancien Premier ministre candidat dans un autre pays, donc à lui de lever l'ambiguïté le plus vite possible, et puis pour le reste, c'est son cheminement personnel. Je n'ai pas de commentaire particulier, mais je retiens le titre de Libération qui, effectivement, est particulièrement croustillant.
Moi, je ne dénonce pas son cheminement personnel. Au contraire, je veux dire, d'abord, il a le droit de quitter la France, qu'il a accueilli
il a la double nationalité.
Il a tout à fait le droit de se présenter à Barcelone.
Bon. Mais on choisit.
Mais voilà.
Il faut faire un choix.
Je ne sais pas s'il a gardé la double nationalité, c'est possible, mais il a le droit de se présenter à Barcelone en tant que national français, pour être maire de Barcelone, ce qui n'est pas possible en France, inversement.
On
peut être élu dans un conseil municipal français quand on est citoyen européen, membre de l'Europe des 28. Par contre, on ne peut pas être élu maire ou adjoint.
Recevoir une délégation.
C'est possible en Espagne. Donc voilà, c'est un choix qu'il fait, pas forcément en tant qu'Espagnol, je ne pense pas. Je pense qu'il le fait en tant que Français, parce qu'en France, il faut bien avouer qu'il n'a plus grand avenir. Voilà.
Matteo,
Je trouve que c'est un peu le résumé de la politique spectacle qu'il a fait après sa chute dans les oubliettes. Personnellement, si j'étais un Catalan, un Barcelonais, j'y penserais deux fois avant de le voter, parce que les résultats de son gouvernement sont sous les yeux de tout le monde. Et puis, ça me préoccuperait d'avoir un maire qui a échoué complètement, surtout en ce qui concerne la politique de sécurité en France, parce que sous son mandat, il s'est passé ce qui s'est passé. Ouais. Donc je pense que, encore une fois, oui, forcément, on peut choisir le pays où on veut se faire élire, si on a deux nationalités, c'est aussi mon cas.
Ouais.
Mais il faut le faire pas en simultané, c'est pour une question de respect.
Parce que je vous rappelle quand même qu'à Évry, il a été élu avec un peu moins de 20 voix.
Exactement.
120 voix de différence.
136 voix, je crois.
Ça, c'est 139
voix.
C'est la diversification de l'investissement, ça. Ouais. Dans le sens qu'il faut avoir une revenu certaine, donc on se fait élire.
C'est pas terrible, pour l'image des politiques, c'est pas terrible.
Non, et puis c'est vrai qu'à Évry, il s'est vraiment battu avec ses 139 voix d'avance, et qu'aujourd'hui, j'imagine, les électeurs d'Évry qui ont voté pour lui.
Qui ont fait campagne pour lui aussi.
Qui ont fait campagne pour lui, les militants.
C'est quand même un piètre stratège. Il s'est planté à la primaire socialiste en se précipitant, en se ruant dans la primaire alors qu'il avait quand même un peu le temps de poser les choses. Il fait pas forcément des mauvais choix politiques systématiquement, mais les mauvais choix tactiques qu'il fait, la façon dont il a mené sa primaire, c'est lamentable. Et un peu sa trajectoire de carrière est sinueuse. Il s'est rallié au macronisme en pensant qu'il serait accueilli à bras ouverts. Il a été mis dans un placard. Voilà.
Le problème aussi pour lui sur cette élection, cette candidature à Barcelone, c'est que ce sera un aller sans retour.
Ouais. C'est-à-dire que s'il perd,
il ne pourra pas revenir à l'Assemblée nationale.
C'est la fin de sa carrière politique française.
Maintenant, je ne suis pas aussi inquiète, parce que c'est peut-être la fin de la carrière politique, mais il peut rentrer dans une grande société.
Tant qu'on n'est pas mort, c'est aussi en même temps...
Absolument.
Ça peut revenir. Alors, on va suivre ça, puisqu'il doit l'annoncer normalement ce soir à 19h. Mais il n'y a pas énormément de suspense. Othmane Nasrou, pour vous ?
Moi, j'ai un coup de gueule nécessairement, puisqu'on a eu hier la présentation du budget du 2019, enfin, du projet de loi de finances, et on a à nouveau effectivement un effort extrêmement réduit en matière d'économie, ce qu'on attend quand même beaucoup de ce gouvernement, qui avait aussi beaucoup promis. On a encore, donc, pour résumer, pour que les gens comprennent bien, c'est très simple, on a un État qui va à nouveau dépenser 60 milliards d'euros de plus l'an prochain que ce qu'il gagne. Voilà, donc c'est tangible, et ça c'est évidemment un déficit qui va se reporter encore sur les générations qui suivent, ouais. Alors qu'on a aussi un président de la République qui s'est engagé sur un certain nombre de réductions de postes dans la fonction publique, et aujourd'hui le compte n'y est pas. Donc c'est un vrai coup de gueule, parce que c'est la deuxième année, le deuxième budget plein de ce gouvernement. Moi je souhaite que ce gouvernement il réussisse, parce que c'est l'intérêt du pays, c'est l'intérêt général. Pour l'instant le compte n'y est pas, et donc vraiment ça ressemble à nouveau à une occasion manquée.
Oui. Les uns les autres, une réflexion sur ce projet de loi de finances.
Matteo
Ghisalperti.
Monsieur l'européiste qui vit à l'Élysée disait qu'il fallait respecter tout un tas de règles, alors que quand il s'agit de la France, on peut demander à la Commission européenne des réductions de peines. Parce qu'il faut respecter des principes comptables. Les autres pays ne sont pas logés à la même verge. Donc,
à la même enseigne.
C'est un budget qui ne change pas par rapport au
précédent.
Au budget Macron sous Hollande. Ouais. Parce que c'est quand même Macron qui a fait au moins les deux premiers budgets de Hollande. C'est-à-dire une pression fiscale extrêmement élevée et pas de vraies économies dans les dépenses.
Oui. Voilà. Il va y avoir effectivement une hausse des carburants qui est annoncée. Donc des taxes,
d'un tas de taxes. La pression fiscale a augmenté considérablement, notamment pour les retraités, dont je suis. Mais c'est vrai qu'on appuie essentiellement d'ailleurs sur les classes moyennes. Et qui sont vraiment saignés depuis sous Sarkozy. Ça s'est beaucoup accéléré avec Hollande et Macron est dans cette suite.
Dans la même dynamique. Oui. Votre coup de cœur ou coup de gueule ?
Alors, mon coup de cœur va peut-être vous surprendre. C'est pas mon habitude d'avoir un coup de cœur pour un politique. Il s'agit de Colomb, le ministre de l'Intérieur.
Alors, oui, c'est étonnant par les temps qui courent, où on lui a plutôt tapé dessus toute la semaine dernière.
C'est tout à fait étonnant, mais j'aime bien être un peu à contre-courant. Le pauvre, il a été très critiqué, notamment lors de l'affaire Benalla, comme si c'était lui qui était en cause, alors qu'il n'y est pour rien, effectivement. Ouais. Colomb, pourquoi un coup de cœur ? Parce qu'il ramène un peu la Macronie sur Terre. Il s'en prend non seulement à l'arrogance
d'Emmanuel Macron
au niveau des paroles qui sont prononcées, mais au niveau de la politique qui est menée, qui est extrêmement coupée de la masse des gens, qui utilise un sabir incompréhensible pour les gens normaux, la start-up nation, on parle franglais, tout ça. C'est une coupure linguistique qui montre aussi une coupure plus large et qui est dans tous les domaines. Mm-hmm. Voilà.
Parce que c'est une référence, vous faites référence peut-être à cet article de la Dépêche
Je fais référence au déjeuner qu'a eu Colomb des journalistes.
Ce que raconte cet article de la Dépêche.
Avec des journalistes et où il souligne notamment que quasiment plus personne n'arrive à parler à Macron. N'arrive à parler à Macron que, et qu'il veut pas, il veut, il il demanderait un peu plus d'humilité. Je pense que c'est la moindre des choses.
Il dit on n'a pas bien traité un certain nombre de problèmes comme l'accueil des mineurs, le 80 km/h. Voilà. Et il dit qu'effectivement, plus personne n'arrive à parler à Emmanuel Macron et que l'Élysée isole et qu'il va être de plus en plus isolé. Vous l'avez lu aussi, Patricia, cet article.
Voilà. Oui. Collomb est quand même une personne. Il est élu maire de Lyon depuis 2001, mais il était déjà député 20 ans avant. Il connaît le terrain, Collomb.
Alors que c'est Macron, visiblement, d'abord, c'est un professionnel de la politique, comme vous le dites. C'est quelqu'un de tout à fait respectable et c'est quelqu'un qui y a cru, qui s'est engagé dès le début. Ça a été une des premières personnalités politiques à soutenir Emmanuel Macron. Et on sent aujourd'hui l'homme déçu. Je pense qu'effectivement, l'affaire Benalla a ajouté à sa déception pour porter le chapeau dont il n'était absolument pas responsable. Et je pense qu'il a très très envie de retourner dans sa ville. Le seul problème en termes de communication, c'est qu'il est...
Il
aurait pu peut-être annoncer sa candidature plus tard, rester ministre de l'Intérieur jusqu'au moment où il aurait quitté le gouvernement. Donc je n'ai pas très bien compris, il y a une petite confusion des genres en termes de communication.
Mais c'est la phrase de chevènement. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Donc là, c'est quand même une situation. Alors, cet article met à jour une situation assez compliquée.
Oui. Ça se termine par le fait. Une situation qui montre que le nouveau monde n'existe pas. Voilà, c'est tout. Dans les combinaisons, comme tout.
Il dit « Nous ne sommes pas nombreux à pouvoir encore lui parler. Ceux qui lui parlent franchement à Macron sont ceux qui étaient là au début, Ferrand, Castaner, Griveaux et moi. D'ailleurs, il va finir par ne plus me supporter. Même si tout le monde se prosterne devant lui, il finira par s'isoler, car par nature, l'Élysée isole. »
Oui, mais c'est vrai que c'est incompréhensible, parce qu'il annonce qu'il est candidat aux élections municipales longtemps à l'avance, mais il reste ministre de l'Intérieur, et puis maintenant, il dit qu'en fait, on va droit dans le mur. Avec ce nouveau pouvoir, donc c'est vrai qu'il y a un moment où il faut que lui-même...
Oui, on comprend pas, c'est pas cohérent.
Et voilà, moi j'ai beaucoup de respect pour la personne de Gérard Collomb, mais là, on comprend pas très bien sa position. Et ces confidences qu'il fait à un certain nombre de journalistes, je vois pas très bien quelles conclusions il en retire pour lui-même. Donc c'est vrai que peut-être qu'il est temps qu'il, tout simplement, il rende sa démission, si c'est effectivement ce qu'il pense, et qu'il a décidé de toute façon d'aller de retourner vers ses anciens horizons.
C'est pas terrible quand même pour l'image du politique. On parlait de Manuel Valls, on a l'impression qu'ils s'accrochent à leur poste, ils ont besoin d'argent, je ne sais pas.
Mais il y a aussi un autre facteur terrible, c'est que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il y a quand même beaucoup de ministres qui sont partis ou qui ont été remerciés. En un an et demi, ça fait beaucoup.
Moi aussi, je pense, Lyon est en France, c'est la capitale de Gaulle, donc il n'y a pas le problème de la double nationalité qu'il y a Emmanuel Valls, pardon. Mais là encore, c'est... Comment on peut faire confiance à quelqu'un qui est encore ministre de l'Intérieur, excusez-moi, et qui est salarié en tant que ça, d'ailleurs devrait s'occuper des choses, l'une des choses les plus importantes pour les Français, la sécurité. On sait parfaitement que notre pays, malheureusement, est un peu malmené de ce point de vue. Et là, tranquillement, il nous dit mais je vais faire une campagne électorale pour la mairie de Lyon et donc je vais démissionner après les européennes. Encore une fois, c'est de la cohérence. Après, je pense que tout le problème reste dans la structure institutionnelle de ce pays. Oui, l'Élysée isole, mais si on a constaté ça depuis 5 présidences au moins, ça suffirait de mettre, je ne sais pas, je parle souvent d'un quota proportionnel ou bien d'intervertir
le rythme. J'ajouterais un petit bémol à ce que vous venez de dire. Lorsque Manuel Valls était Premier ministre, à un moment donné, il ne s'est plus du tout entendu avec François Hollande. Exactement. Et il n'avait qu'une envie, c'était de partir et de démissionner. Pourquoi n'a-t-il pas pu le faire? Parce qu'on était dans une période particulière d'insécurité et après l'attentat. Et en fait, il est resté parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Je pense aussi que Gérard Collomb a conscience du fait qu'on est dans une période difficile en termes de sécurité, notamment on voit ce qui se passe par rapport aux policiers. Et je crois qu'il a envie d'aller, c'est vraiment pas pour l'absoudre, mais je crois qu'il a envie d'aller jusqu'au bout et de tenir encore le coup pour aider.
Allez, on se retrouve dans un instant et puis on verra votre coup de cœur ou votre coup de gueule, Matteo Ghisalberti, dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio pour commenter l'actualité avec Othmane Nasrou, président du groupe LR et indépendant au Conseil régional d'Île-de-France, Patrick Flukiger, journaliste éditorialiste, Matteo Ghisalberti, journaliste italo-français, rédacteur en chef de Putsch, le nouveau média franc-tireur, et Patricia Balm, présidente fondatrice de PBCom International. Alors Matteo Ghisalberti, votre coup de gueule.
Mon coup de gueule est effectivement la révélation qui a publié Mediapart à propos de la du pistolet de
l'arme qu'il
y avait dans les mains Alexandre Benalla lors de la prise d'une photo il y a quelque temps
pendant la campagne
quand il était
de
en
Macron.
Campagne exactement donc ça contredit sa version pendant la commission l'audition de la commission au Sénat. Donc encore une fois désormais enfin qu'est-ce qu'on veut faire, enfin moi je suis vraiment comment dire très déçu aussi par les paroles utilisées par les membres de la majorité et les députés qui répètent un phrasaire,
des éléments de langage
qui sont toujours les mêmes et qui s'entêtent à ne pas reconnaître que déjà il y a eu quelque chose qui n'a pas allé, qu'il y avait quelqu'un qui avait trop de pouvoir et n'était pas censé de l'avoir, et puis surtout arrêtons de dire que c'est l'opposition veut saboter ce pays. L'opposition fait l'opposition. Arrêtons de dire ça. Sinon, on n'est pas en démocratie, parce que si on continue à attaquer les opposants politiques comme les pires ennemis de la France, alors, excusez-moi, c'est la Corée du Nord. Hein.
Ouais. Alors, cette affaire de pistolet, ça veut dire qu'il a menti, Alexandre Benalla,
bien
au
sûr.
Sénat. Mais puisqu'il a dit qu'il n'avait pas, il a affirmé devant la commission d'enquête du Sénat, qu'il n'avait jamais utilisé cette arme en dehors du QG de campagne d'Emmanuel Macron, que c'était pour protéger le QG de campagne qu'il avait demandé à avoir. Et là, il n'avait pas d'autorisation de port d'armes, visiblement, à la date de cette photo.
Je crois qu'Alexandre Benalla s'est contredit sans cesse, tout le temps. Alexandre Benalla, il y avait un coffre chez lui, le coffre a disparu. On ne sait pas où est parti ce coffre. Il a évoqué à l'époque qu'il y avait trop de journalistes en bas de chez lui et qu'il avait peur qu'on lui vole des choses. Enfin, c'est une sombre plaisanterie.
Parce qu'il a été pris en photo aussi, il voulait se protéger.
Qui en voulait Alexandre Benalla à l'époque, personne ne le connaissait. Allait lui voler son coffre. Donc, c'est un personnage trouble. C'est un personnage qui est somme toute talentueux, parce qu'effectivement, je trouve qu'il s'en est pas mal sorti. Il paraît qu'il a été coaché par des journalistes. Donc, c'est un garçon mûr, intelligent pour son âge. Mais enfin, voilà.
Il a menti.
Non, mais il y a une accumulation de mensonges depuis le début. Je veux dire,
et
la vérité.
Et des dérapages aussi.
La vérité de Benalla n'est que la sienne.
Benalla a menti sous serment.
Oui, c'est ça, Patrick Flukiger.
Il était sous serment devant la commission d'enquête du Sénat. Aux États-Unis, ça vaudrait un scandale. Scandale terrible.
L'impeachment.
L'impeachment, éventuellement pour son chef.
Mais il a, on lui a d'ailleurs dit, quand il a juré comme un peu comme dans les films américains, de dire toute la vérité. Je ne savais d'ailleurs pas que ça se faisait comme ça. Et on lui a dit que c'était passible, le mensonge était passible, je crois, de 50 000 euros d'amende et d'une peine d'emprisonnement.
Donc, mais aux États-Unis, ça serait encore bien plus grave. Alors, ce n'est pas pour défendre le système des États-Unis, mais mentir sous serment montre aussi... j'ai coutume de dire que Benalla, c'est toute l'arrogance de son maître. Là, on le voit, toute l'arrogance, tout le mépris pour la vérité et pour les gens de son maître. Et je pense que ça va continuer à faire beaucoup de mal à Macron, qui n'a jamais pris une vraie position franche et nette pour rompre avec Benalla.
C'est ce qui est incompréhensible dans cette histoire, c'est que les faits au départ, avec l'affaire de la contre-escarpe au 1er mai, sont pas d'une gravité absolue, pardon de le dire, c'est pas le scandale d'État, mais en fait, la défense de ce pouvoir a été pire que les accusations que les gens ont pu porter. Et en fait, on va à chaque fois un peu plus bas, désolé de le dire comme ça, dans cette affaire qui devient, du coup, une illustration, effectivement, des dérives d'un pouvoir. Et vraiment, ce qui a été dit sur l'opposition, c'est vrai qu'il faut se rappeler que l'opposition, elle est là dans son rôle de contre-pouvoir. Moi, les propos qui ont été tenus à l'encontre des sénateurs qui, en plus, font leur commission d'enquête de manière légitime et, je pense, sur un ton relativement modéré, ne méritaient pas d'être pointés du doigt comme ça. Donc, c'est pire encore
un individu lambda, un agent de l'Élysée qui se serait comporté comme ça. Il aurait été viré.
C'est vrai que l'histoire de la
on n'en aurait jamais parlé.
Vous avez raison. C'était pas un événement majeur. Le problème, et moi je me souviens, je l'ai tweeté le lendemain du début de l'affaire Benalla, où j'ai dit si l'Élysée s'était séparée immédiatement d'Alexandre Benalla, il n'y aurait pas eu l'affaire Benalla. Si l'Élysée s'était séparée de lui au mois de mai.
Mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? Ça reste la question.
C'est le mystère.
Et encore une fois, d'abord, c'était la faute aux journalistes. Après, c'était la faute de l'opposition. Maintenant, ça sert à la faute aux Français parce qu'ils ne comprennent plus Emmanuel Macron et seulement à 29%, ils lui font confiance. Excusez-nous, on a encore le droit d'en parler. Moi, je voudrais reprendre une citation d'un confrère communicant, Florian Slinky, qui, sur une chaîne TV, a dit « c'est du booba », pour résumer le... Parce que cette histoire de Benalla vraiment continue à descendre à un niveau encore plus, plus bas.
Allez, on se retrouve dans un instant. On va commenter donc l'avis du comité d'éthique qui est favorable pour la PMA pour toutes les femmes, ouverte aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Qu'en pensez-vous ? 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
De retour dans le studio de Sud Radio avec vous jusqu'à midi en direct. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Nous sommes ensemble pour commenter l'actualité. On attend évidemment vos réactions 0826 300 300. Donc ce matin, le conseil, le comité d'éthique a rendu un avis positif à propos de la PMA. Ce conseil d'éthique s'est prononcé en faveur de l'ouverture de la PMA pour les femmes seules et les femmes en couple. Qu'en pensez-vous les uns les autres ? Est-ce que c'est une réelle demande, un réel besoin, une évolution de la société nécessaire ? Et évidemment, on parlera de la GPA qui, quand on parle de PMA, arrive en général dans le débat. Patricia Bann. Alors,
moi, je suis archi contre la merchandisation
du corps
humain. Mais il y a des millions d'enfants dans le monde orphelins, adoptables. Et je pense qu'avant de se préoccuper de faire des enfants avec des bouts d'embryons, etc., on ferait bien de donner une chance à tous ces enfants dans le monde qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas d'avenir.
Oui, mais sauf que la plupart des pays n'acceptent pas, n'ouvrent pas leurs portes, ont fermé leurs portes à l'adoption.
Enfin, il y a aussi une possibilité d'adoption en France. C'est vrai que la procédure est longue.
Le Vietnam a fermé, il y a énormément de pays qui ont fermé.
Mais en France, il y a des enfants adoptés. Alors c'est vrai que la procédure est très longue, l'inscription à la DAS, etc. Mais il y a quand même des enfants abandonnés, malheureux, dont l'avenir ne sera peut-être pas grand-chose. Pourquoi ne pas adopter des enfants ?
Oui, mais le problème de l'adoption, c'est parallèle, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas adoptables, qui sont abandonnés, mais dont les parents n'ont pas renoncé à leurs droits. Donc, ce sont des enfants qui sont au foyer, qui sont en famille d'accueil.
Légalement.
Exactement.
On pourrait intervenir légalement.
Il y a des enfants adoptables aussi.
Je crois qu'il y en a assez peu en France, des enfants adoptables. Enfin bon, vous dites PMA, non.
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 Ce qui est évident, c'est que si on ouvre aujourd'hui la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, je ne vois pas très bien.
On refuserait aux hommes.
Ce serait évidemment une rupture d'égalité. C'est évidemment la prochaine étape. Et autant moi, je suis très favorable au progrès technique et scientifique, autant il faut qu'on choisisse dans quel modèle de société on veut. Je suis entièrement d'accord avec Patricia Balm. On ne peut pas accepter d'avoir demain une société dans laquelle on loue ou on paye des gens pour porter des enfants à notre place.
Non, c'est la GPA. Possible. La PMA, c'est différent.
Bien sûr, mais c'est la suite logique. C'est la suite logique parce que vous allez devoir proposer la même chose aux couples d'hommes et ça s'appelle la GPA. Et donc, je pense que vraiment aujourd'hui, le sujet, ce n'est pas que tout le monde puisse avoir droit à avoir un enfant, mais c'est plutôt le droit de l'enfant. Il y a certainement des tas de choses à faire en matière d'adoption, mais dans le modèle de société que moi, je souhaite pour notre pays, c'est effectivement qu'on n'aille pas sur ces questions-là qui sont un glissement vers la marchandisation du corps humain.
Est-ce que ce n'est pas une évolution de la science, de la société ? Je vous pose la question.
Bon, l'évolution de la science, c'est aussi les OGM, et on est contre à juste titre, je pense. L'évolution de la science, ce n'est pas une excuse ou ce n'est pas un coup de pouce pour faire n'importe quoi. Moi, je suis contre la PMA, absolument, parce que l'enfant n'est pas un objet qu'on achète sur les rayons d'un supermarché. C'est pas un chat qu'on va acheter à la SPA et c'est pas quelque chose qu'on peut acheter dans les tubes d'une clinique. Il y a déjà de très nombreux enfants nés de PMA ou de pères inconnus qui passent leur vie à rechercher quel est leur père géniteur.
Ça va poser un certain nombre de questions.
Ça va, si on développe ça, si on multiplie ça, ça va faire un truc incroyable. Je suis d'accord avec
Othman.
Avec Othman, ça ouvre de fait la voie à la GPA, à la gestation
pour autrui, où là c'est une mère porteuse.
Mère porteuse qui porte un enfant pour un couple, par exemple, d'homosexuels mâles. Moi, on entre avec ça vraiment dans le libéralisme. Qui est la marchandisation du corps humain, je suis d'accord avec vous.
Est-ce que c'est la marchandisation, puisque le don de sperme est gratuit, ensuite c'est une opération médicale.
Alors, est gratuit peut-être en France, alors qu'à l'étranger, parce qu'il y a un problème de déficit de sperme, première chose, et à l'étranger, ce n'est pas toujours gratuit. Donc moi, ce qui m'embête beaucoup, je suis contraire à la PMA, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai perdu mon père, j'étais pas enfant, mais je sais ce que ça veut dire avoir un parent de moins, et je suis sûr que toutes les personnes qui ont perdu leur père ou leur mère savent qu'une référence, même quand on a 50 ans, ça serait bien de l'avoir à côté, parce que c'est son père et sa mère. On n'a pas eu tous la chance d'avoir tous les deux les parents jusqu'à à l'âge adulte. Et surtout, ce que je remarque, c'est qu'on passe notre vie à essayer d'éviter de rester seul. Mmh. Les parents isolés de tout type, donc mère ou père, sont parmi les plus exposés au risque de tomber dans la pauvreté. Ça, c'est les statistiques du Secours populaire de l'année passée. Pourquoi allons-nous permettre à des personnes, finalement, de se reconstruire une vie toute seule, sciemment, en savant qu'aujourd'hui, enfin, les aléas qu'on a professionnels font qu'on peut se retrouver au chômage du jour au lendemain. Et si on a fait un enfant sciemment, tout seul, pour dire « Ah, mais c'est une preuve d'amour, etc. » Bien sûr. Mais alors, pourquoi ne pas penser à l'adoption, comme on disait. On intervient
c'est
du point de vue...
C'est pas la même chose.
C'est... Ah oui, mais d'accord, mais c'est un enfant.
Mais il y a aussi des dérives, et moi je suis d'accord avec Mathéo sur une chose. Aux États-Unis, les mères porteuses, c'est un business.
Oui. C'est même plus un business pour les avocats que pour les mères porteuses. Hein.
Mais attention,
c'est vrai.
C'est un business pour tout le monde, pour les cliniques, pour les avocats.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie, encore une fois, puisqu'on va avoir riche-pauvre, selon que vous êtes riche ou vous êtes pauvre, avoir accès à la PMA ou à la GPA.
C'est ça.
Donc c'est peut-être ça aussi,
pour des questions idéologiques, il y a quelques années, par exemple, il y avait la fameuse phrase de Pierre Berger qui disait qu'il ne comprenait pas la différence entre... Enfin, je ne me rappelle pas exactement, je ne voudrais pas l'écorcher, mais le sens était louer ses bras ou louer son ventre, c'était la même chose. Désolé, moi je ne suis pas un expert, j'ai seulement assisté... Enfin, comment dire, j'ai vécu à côté de ma femme pendant ses grossesses. Je peux vous assurer que les médecins, après, vous racontent que... Tranquillement, l'enfant qui est dans la mère sait prendre des relations déjà avec les voix qu'il entend dehors. Et au passage, il y a aussi la voix de son père.
Mais là, vous parlez de la GPA. Là, on est sur la PMA, sur des femmes seules.
On ne peut pas dissocier les deux.
Si vous êtes enceinte et vous n'avez pas à côté de vous une autre personne, par choix, parce que ça peut arriver malheureusement de rester seul. Je ne veux pas stigmatiser personne. Et je ne suis pas là pour dire que l'amour entre deux personnes du même sexe est différent de celle entre personnes de sexe différent. Je pense tout simplement au fait que, attention, c'est des enfants qui plus tard deviendront des adultes. Et on sait parfaitement, nous on est des adultes, qu'on a des problèmes qu'on amène de certaines expériences qu'on peut avoir eues.
On a Isabelle en ligne qui voulait réagir. Isabelle, bonjour.
Bonjour. Bah, écoutez, je suis ravie d'entendre ce que j'entends parce que je sens que vous êtes en train de vous poser des bonnes questions. Moi, je suis infirmière, je travaille auprès des adolescents et évidemment, toutes ces problématiques-là au moment de l'adolescence, eh bien, quand un père est absent, quand un père est décédé ou quand un père n'a jamais existé, c'est compliqué pour un enfant, en effet, de se construire et puis d'être un adulte debout, parce que c'est un peu ça l'idée, quand même. Et moi, je voudrais juste rebondir sur... vous avez fait le parallèle entre la PMA, la GPA et puis l'adoption. Moi, il me semble, en effet, que finalement, fabriquer un enfant, puisque c'est un peu ça dans le cadre de PMA avec un donneur, finalement, c'est fabriquer un orphelin, volontairement. Et on a les mêmes problématiques derrière.
Un orphelin de père, alors, par exemple.
Un orphelin de père, oui, puisque voilà. Pour l'instant, c'est plus, ouvert aux femmes. Merci Isabelle de votre témoignage.
Ceux que maintenant font recours à la PMA pour des raisons médicales, les enfants demandent d'ailleurs au législateur d'intervenir pour avoir le droit de récupérer les informations sur
mais
son
ça,
père biologique.
Le comité d'éthique s'est prononcé en faveur donc d'une levée de l'anonymat des futurs donc donneurs de
sperme.
Ça
veut dire que le comité d'éthique constate déjà qu'il y a un problème et qui pourrait s'accentuer si on fait ces recours. Et n'oublions pas aussi une chose que encore une fois, il y a des plans qui disent finalement on a besoin d'avoir un enfant, donc d'ailleurs on le fait payer aux autres contribuables aussi, alors que actuellement c'est un problème médical qui est
La PMA aujourd'hui est autorisée aujourd'hui pour les couples qui ont des problèmes de fertilité.
Voilà.
Notons d'ailleurs que l'avis du comité consultatif national d'éthique ne s'est pas fait à l'unanimité, qu'il y avait même des voix dissonantes à l'intérieur. On voit bien que le sujet est sensible et que sur ces sujets qui touchent au secret de la conscience de chacun, il faut qu'on avance toujours très prudemment. Et donc, moi, j'espère que ce gouvernement-là ne va pas précipiter les choses, même si effectivement, c'est un engagement d'Emmanuel Macron avec le remboursement intégral de cette PMA-là, ainsi élargie. Donc, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et il faut bien se rappeler aussi une chose. Moi, je respecte parfaitement le désir légitime que peuvent avoir effectivement une personne ou un couple, quelle que soit d'ailleurs l'orientation sexuelle, d'avoir un enfant. Vraiment, il faut le respecter. Je comprends ça. Mais le rôle du politique, c'est de mettre de l'ordre là-dedans et de savoir dans quelle société on veut vivre. Et clairement, c'est pas cette société-là.
Patrick Fluguiger.
Je crois aussi qu'on est dans un débat, mais pas seulement. Il n'y a pas que la PMA, là. On est dans un débat plus largement philosophique sur les racines des gens. Beaucoup de choses se passent aujourd'hui qui sont des attaques contre les racines des gens. Il y a quand même une politique très antifamiliale de la part de Hollande. La famille, c'est
de Macron
racines.
Ou de Hollande ?
De Hollande.
Oui, de Hollande. Hollande. Oui.
Macron continue, mais c'est Hollande qui a donné des coups de hache dans les allocations familiales, notamment.
Le quotient familial aussi.
Le quotient familial, les allocations familiales, ce qui a touché de plein fouet les classes moyennes.
Excusez-moi de vous interrompre, c'était quelque chose qui était recopié en dehors de la France parce que ça marchait très bien et on a voulu l'abolir alors que.
L'Allemagne se lance dedans. L'Allemagne adopte en ce moment, depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années, la politique nataliste inventée par la France après la guerre, qui a porté beaucoup de fruits et qui marche très bien, qui nous permet d'avoir une démographie qui se porte bien, contrairement à beaucoup d'autres pays européens. Et nous, on est en train de la détruire, cette politique. Et la PMA, comme c'est les attaques contre les allocations familiales, qui continuent sous Macron, comme les attaques éventuelles ou probables contre les transmissions d'héritage, concourent à couper les gens de leurs racines. Et je pense que philosophiquement, c'est très dangereux.
Moi, je suis d'accord avec vous et je vais vous dire, j'étais journaliste à l'époque et j'avais interviewé le professeur Friedman, qui était le père des bébés éprouvettes. Je me méfie énormément des détournements de progrès scientifiques. Voilà.
Oui.
Il faut être très, très prudent.
Surtout parce que, bon, c'est un peu le hasard du calendrier, peut-être, mais on me répond souvent que c'est la majorité des Français qui sont favorables à la PMA pour tous.
Oui, alors, ça se pratique de plus en plus, un peu partout dans le
très
monde.
Très bien.
Donc
alors,
si
on regarde les sondages, seulement le 29% des Français est favorable à Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il devrait faire ? Démissionner ? Voilà.
Joli.
Ou bien, si à l'étranger on fait des choses, par exemple à l'étranger, on n'a pas les minimums, on n'a pas le SMIC. On copie l'étranger, pas nécessairement. Enfin, alors, utilisons juste un petit peu de bon sens et arrêtons aussi de stigmatiser les pères, parce que du point de vue philosophique aussi, excusez-moi, on stigmatise les pères.
Bon, on peut avoir aussi après des couples homosexuels hommes qui vont vouloir avoir des enfants.
Ou qui veulent vouloir se séparer. Je veux dire, on attaque souvent la famille traditionnelle si définie pour dire, mais il y a plein de familles qui ont des problèmes familiaux, qui se séparent, etc. Mais Ce n'est pas dit que de l'autre côté, enfin, je veux dire, entre un couple homosexuel, tout passe bien.
Moi, ce qui m'interroge, c'est l'injustice, c'est la non-égalité de chacun devant ces questions, enfin, devant la santé en général. Mais c'est vrai que si on a les moyens, encore une fois, je le redis, on peut avoir un enfant si on est une femme seule ou un couple de lesbiennes. Et pareil pour l'euthanasie. Je vois que l'euthanasie ne se pratique pas en France. On a tous autour de nous des gens qui ont été dans des situations d'euthanasie et qui ont été euthanasiés
parce qu'ils avaient ou en Suisse,
oui, et parce qu'ils avaient
ont
le bon médecin moyens. Et parce qu'ils avaient
ils
les
ont des moyens.
Oui, mais pourquoi il y a la possibilité, enfin comment dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'arriver toujours à la culture du déchet dans le sens que moi je me pose la question, je voudrais pas être mépris, mais il y a toujours des grands intérêts économiques et pour la PMA et pour
mais là il s'agit
l'euthanasie.
Du droit de mourir.
Oui, très bien.
De choisir. Alors, sa fin
je
quand
suis
on a une maladie
d'accord.
grave.
Je suis totalement
c'est
d'accord.
C'est un sujet
sauf
très
que,
personnel de pour chacun.
Sauf que,
de dignité,
à côté, on a des gens, et des entreprises qui font leur business avec la... comment dire, et en essayant de travailler sur l'opinion publique pour faire en sorte que des gens aillent payer pour se suicider
oui,
ou permettre
c'est
fin à leur vie.
Il faut réglementer en France le droit de mourir dans la dignité et abréger la souffrance quand des personnes souhaitent partir. Voilà.
Allez, on se retrouve dans un instant. On continue ce débat 0826-300-300. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
De retour avec vous, on est ensemble jusqu'à midi en direct. Vous retrouverez ensuite André Bercoff. Nous allons parler donc de l'Aquarius. Faut-il accueillir que la France accepte que l'Aquarius, ce bateau de migrants, accoste à Marseille? Mais juste avant, pour revenir sur le sujet précédent, on a une auditrice, Mélanie, en ligne avec nous à propos de la PMA. Et vous y êtes favorable, Mélanie?
Oui, bonjour. Alors oui, bonjour. J'avais un peu entendu le débat et effectivement, je vous ai tous entendu dire que vous étiez plutôt contre la PMA. Alors justement, il y a une de vos débatteuses qui a dit juste avant la pub qu'il fallait laisser les gens mourir tranquilles s'ils voulaient mourir, tout simplement, pour l'euthanasie. Et du coup, je voulais revenir sur le fait que je pense que c'est pareil pour les enfants, enfin pour les couples qui désirent des enfants. Il faut laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Ça existe, la PMA, c'est un recours qui peut les aider. Et il y a des études assez anciennes qui prouvent que les gens issus donc de la PMA pour les couples homosexuels, hein, là, c'est un couple homosexuel, pas femme seule, ils sont beaucoup plus tolérants dans la société aujourd'hui avec les gens. Et aussi, il s'avère qu'ils vivent très bien le fait d'avoir des parents homosexuels face à la société. Donc, voilà.
Donc, vous y êtes favorable. Vous dites que ça va dans le sens qu'on n'a pas prouvé que c'était mauvais pour les enfants. Au contraire.
Du moins, il y a assez d'études. Enfin, moi, j'ai regardé pas mal d'études concernant le sujet. Et c'est vrai que de différents âges, hein, que ce soit qu'il y a un enfant qui est à l'école maternelle, parce que généralement, les jeunes ont tendance à être un peu plus virulents entre eux. Et même à cette période-là de leur vie, ils n'ont pas de problème par rapport à la société. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent effectivement « Oui, mais après, comment expliquer à ses camarades de classe ? J'ai qu'une maman, etc. » Mais en fait, pour les enfants, c'est... Enfin, déjà, ils ne posent généralement pas la question. Et s'ils posent la question et que vous répondez juste « J'ai deux mamans », ça ne leur pose pas de soucis.
Merci. Donc, d'accord. Ben non, mais c'est bien que quelqu'un défende la PMA également, parce que voilà, on choisit pas les intervenants forcément en fonction des sujets. Il se trouve que tout le monde était contre ce matin. Moi, je n'ai pas donné mon avis, mais j'ai fait un peu l'avocat du diable. L'Aquarius, sacré problème pour le gouvernement, puisque il est confronté à une décision compliquée. L'Aquarius, ce bateau de migrants qui est en Méditerranée, demande à accoster à Marseille. Ce matin, Benjamin Griveaux a dit que Marseille n'était pas le port le plus proche. Quelle décision va prendre ? Il y a double problème.
Il y a un double problème. Il y a un vrai problème humanitaire. Parce qu'il y a, je crois, 58 personnes à bord.
58 personnes à bord, des femmes, des enfants.
Des femmes, des enfants, un petit chien d'ailleurs. Ouais. Et c'est vrai que c'est terrible pour ces gens qu'on va balader de port en port. Je trouve ça dramatique. Donc, je pense que si on décidait de les accueillir à Marseille, il faut les accueillir pour des raisons sanitaires et humanitaires à la fois, mais il faut les faire repartir.
Ouais.
On ne peut pas accueillir encore 50 migrants. Que va-t-on en faire ? Est-ce que ces gens auront du travail ? Comment on va subvenir à leurs besoins ? Je crois qu'il ne faut pas se cacher les choses. Et je pense que c'est pour cela que le gouvernement est très ennuyé. Malte a refusé d'accueillir le bateau. Je pense que Salvini, n'en parlons même pas, il ne veut même pas en entendre parler. Donc voilà, mais ça pose un problème à la fois humanitaire et à la fois un problème de gestion de 58 migrants de plus sur le sol français.
Et puis un signal envoyé en fonction de la décision qui sera prise. Écoutez ce que disait Nathalie Loiseau, la ministre des secrétaire d'État aux Affaires européennes. Écoutez ce qu'elle disait ce matin, c'était sur Sud Radio.
Nous sommes en discussion avec d'autres pays européens, comme nous l'avons été tout l'été, pour trouver un port sûr de débarquement.
Quel est le port le plus proche ?
On le sait tous, c'est l'Italie ou Malte. On le sait tous.
Donc, oui, mais c'est toujours l'Italie, quoi.
C'est toujours l'Italie, sauf que ce que nous avons proposé depuis juin, c'est de faire en sorte que l'Europe soit 100% solidaire.
Franchement, accueillir 58 migrants à Marseille, est-ce que ça va déstabiliser la France ?
C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Simplement, faire 5 jours de mer à des gens qui pourraient n'en faire qu'un seul, est-ce que ça a du sens quand l'Europe s'engage à répartir les demandeurs d'asile ?
Voilà, oui. Non, excusez-moi. Je dis l'Italie. L'Italie voilà. Est là aujourd'hui.
Non, je ne suis pas là pour défendre mon pays d'origine, mais on est arrivé au noyau dur de la situation, dans le sens que, enfin, la France et d'autres pays, peut-être, se rendent compte que, non, ce n'est pas nécessaire qu'un pays européen soit obligé d'accueillir un certain nombre de migrants, parce qu'effectivement, après, il faut gérer, leur assurer tout un tas de continuations. Moi, encore une fois, je vois qu'il y a beaucoup d'idéologie dans cette question. Bien sûr. On arrive effectivement à comprendre que le gouvernement est dans un impasse parce qu'il a dit qu'il s'est fait les chantres de l'européisme, mais après il ferme les frontières avec son voisin italien, par exemple, auquel il dit « Ah mais non, mais vous devez accueillir. » Oui, mais excusez-moi, alors deux choses l'une. Bon, il y a Marseille qui est trop loin. Il y a la Corse qui est juste à côté. D'ailleurs, le conseil régional de la Corse avait dit qu'il voulait accueillir des réfugiés. Donc, excusez-moi, mais si on dit qu'on est pro l'aide pour les migrants, chose que tout le monde fait, parce qu'il ne faut pas oublier que de toute façon, les gardes-côtes italiens continuent à secourir des migrants. Mais là, il y a une question de l'illégalité. L'Aquarius sait qu'il ne veut pas partir, qu'il n'a plus de pavillon, d'ailleurs.
Oui, et le Panama lui a refusé, lui a retiré le pavillon hier.
Exactement. Donc, après, on trouve... si elles veulent vraiment aller dans une zone d'eau internationale pour intercepter des passeurs qui se font payer pour transporter des enfants et des femmes enceintes et des ex-prisonniers, malheureusement, parce qu'on sait ce qui se passe en Libye, il le fait à son risque et péril. Ouais. Mais il ne faut pas après dire que c'est l'Italie ou tel autre ou tel pays qui sont méchants.
Je trouve que les Français sont assez gonflés de dire Darmanin parle d'une déroute morale en parlant de l'Italie.
Je pense d'abord qu'il faut renvoyer Nathalie Loiseau à l'école. Parce que le port le plus proche de l'Aquarius, ce n'est ni à Malte ni en Italie, c'est la Tunisie et c'est la Libye. Là, il ne s'agit pas... moi, je suis contre l'accueil de l'Aquarius à Marseille, mais vraiment contre. Parce, là, il ne s'agit pas de sauvetage. L'Aquarius, cette fois-ci, est allé chercher les migrants au nez et à la barbe des gardes-côtes libyens qui étaient en train de sauver les occupants du bateau qui étaient en difficulté. L'Aquarius est allé les cueillir sous leur nez. Là, je suis d'accord avec Matteo, on est dans l'idéologie la plus pure.
Mais qui est derrière l'Aquarius ? Moi, ça m'intéresse si quelqu'un ici a la réponse de savoir qui sont ces gens qui organisent tout d'un coup des bateaux, avec quels moyens,
qui sont des idéologues qui semblent se coordonner, alors c'est peut-être une accusation, mais qui semblent se coordonner avec les passeurs libyens. Parce que comme par hasard, l'Aquarius arrive là où les gens sont en difficulté, la mer est quand même grande, vraiment au bord des côtes libyennes. Je veux dire, c'est un nouveau marché des esclaves qu'on est en train de faire entre l'Afrique et l'Europe. Et là, ils sont complices de ce marché des esclaves.
Ouais. C'est vrai que l'argument du gouvernement est quand même extrêmement faible. Tout à coup, il n'y a plus du tout d'unité européenne. On se contente de se renvoyer la balle. Et en fait, c'est une manière de ne pas répondre à la question. Et ce qu'il faut que tout le monde ait en tête, c'est vrai que moi, je ne suis pas contre la générosité ou quand il y a des vraies situations humanitaires, même si là, il y a quand même un doute au bout d'un moment qu'on voit bien que c'est un test qui est lancé à chaque fois, qu'on ne va pas aller à chaque fois de situation particulière en situation particulière, mais il faut quand même rappeler que 90% des déboutés du droit d'asile aujourd'hui en France ne repartent jamais. Donc on a un système qui ne marche pas. Et donc ça n'est plus possible d'être simplement dans la générosité d'ailleurs, ou dans les bons sentiments. Vous avez seulement 10% de ceux qui sont condamnés, expulsés à quitter le territoire de la France qui partent et 90% alors, qui restent dans nos centres d'hébergement si d'urgence. Et donc nos capacités d'accueil, c'est un système
Othman,
qui ne peut pas fonctionner.
Nasrou a mis vraiment le doigt sur le vrai sujet.
Sinon ça ne marche pas.
Comment on gère après?
Comment hier, on gère ça, ouais.
Hier, l'Italie a approuvé, le Conseil des ministres a approuvé les nouvelles règles pour l'immigration. Et parmi les autres, il y a par exemple l'abrogation des séjours pour des motifs humanitaires qui ont été remplacés avec des permis liés à des mérites civils. Donc on doit s'engager si on veut rester dans un pays. Et puis, on a augmenté le nombre de crimes qui provoquent automatiquement le retrait du permis de séjour. Et puis aussi, on a abrogé la figure des réfugiés en vacances, qui sont ceux qui disent « nous sommes expatriés, nous avons fui notre pays parce que c'est en guerre, mais on revient en vacances, donc on rentre en Italie, etc. » Donc là, c'est fini.
Mais on va suivre ça de toute façon dans la journée, puisqu'une décision va être prise. Et puis on va suivre également la décision de Manuel Valls ce soir à 19h, sans grand suspense.
Il n'y aura pas de surprise.
Voilà. Merci à tous les quatre.
C'est à l'heure des tapas, d'ailleurs.
À l'heure des tapas, absolument.
Et des castagnettes. Donc,
ce soir, non, à demain, à 10h. Et dans un instant, vous retrouverez André Bercoff tout de suite après les infos.